الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة العاشر من شهر شعبان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل بإذن الله تعالى في الدرس الخامس من دروس شرح الأصول الثلاثة للعلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 7 juin 2014 et nous entrons dans le cinquième cours dans l'étude de cet écrit de l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab, les trois fondements et leurs preuves. À travers les cours passés, nous avons vu la première introduction, celle dans laquelle l'auteur, rahimahullah, a cité les quatre points essentiels que toute personne doit impérativement connaître. Masha'Allah. Beaucoup de jeunes appuyés sur les murs. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Amadou, t'es malade? Akhi, tu es malade? Celui qui n'est pas malade, il se rapproche. Tu es malade, Akhi? Qu'Allah te guérisse. Arrêtez d'être paresseux. Barakallahu fikum. Arrêtez de vous asseoir au fond, sur les murs. La science vient vers vous, venez vers elle. À travers les cours passés, nous avons vu les quatre points essentiels que tout musulman doit impérativement connaître. Premièrement, c'est la connaissance. Deuxièmement, la mise en pratique. Troisièmement, le prêche. Quatrièmement, l'endurance dans ce chemin. C'est ce sur quoi nous nous sommes arrêtés dans le dernier cours. L'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, va entrer dans son écrit dans une deuxième introduction. Il dit: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. Ce qui veut dire: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre les trois points suivants et de les mettre en pratique. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, va nous citer trois autres choses dont l'apprentissage est obligatoire à chaque musulman et musulmane. Et qui dit obligatoire, dit que celui qui le met en pratique sera récompensé. Celui qui le délaisse est dans le péché. Ce qui veut dire que ce qui va suivre, nulle personne n'a le droit de l'ignorer. Car ce sont des points qui fondent l'islam ou qui sont la base de l'islam. Il va en citer trois. Rahimahullah. Al-Ula, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, bal arsala ilayna rasula, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Le premier, Allah Azza wa Jal nous a créé, a subvenu à nos besoins et ne nous a pas laissé à l'abandon. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager. Celui qui lui obéit entrera au paradis. Celui qui lui désobéit entrera en enfer. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont la traduction est: nous vous avons bien envoyé un messager, témoin de vos actes et paroles, de la même façon que nous envoyâmes un messager au Pharaon. Le Pharaon désobéit alors au messager et nous l'anéantîmes par un dur châtiment. Dans cette deuxième introduction, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous citer un point de la plus haute importance. En effet, il va nous citer que nous ne sommes pas dans ce monde pour faire ce que bon nous semble et que nous ne sommes pas créés pour être des insouciants qui n'ont pas de devoir duquel ils doivent s'acquitter ou qui n'ont pas de but à observer. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés donner la subsistance, a subvenu à nos besoins et ne nous a pas laissé à l'abandon. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous a donné existence après le néant. Ensuite, il nous a donné comme subsistance tout ce dont nous avons besoin. Et après cela, il ne nous a pas laissé à l'abandon faire ce que l'on veut, faire ce que bon nous semble. Subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, après nous avoir donné la vie, la subsistance dont nous avons besoin pour continuer dans cette vie, il nous a envoyé un messager qui est venu nous enseigner le but de notre existence et qui est venu nous montrer que les chemins se divisent en deux, celui du paradis, celui qui mène à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui mène en enfer. Et vous allez voir que ce point-là va être une introduction aux deux autres points qui vont suivre. Et ces trois points forment ensemble une introduction. Tout cela afin de rentrer, préparer ou prêt dans les trois fondements en détail avec les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour une sagesse ultime, sans précédent. Une sagesse dans laquelle il y a la réussite de chacun d'entre nous. Une sagesse qui nous accorde la réussite dans tout ce que l'on entreprend. Une réussite dans ce bas monde, une réussite dans l'au-delà, quand on sera ressuscité à Allah. Et cette sagesse n'est autre que l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il est malheureux aujourd'hui de voir que des musulmans ne savent pas répondre à la question « Pourquoi est-ce que tu es créé ?» Subhanallah. Comment hésiter lorsqu'on te pose cette question qui est le but de ta vie? Si tu poses cette question et essaies, tu verras, à beaucoup de musulmans, tu verras que pas mal d'entre eux te répondront qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont créés. Et c'est une chose qui est catastrophique. Le but de ta vie, tu l'ignores. Et c'est pour ça que le Cheikh, rahimahullah, a cité ce point ici. Parce que toute personne qui doit se soumettre à Allah, Azza wa Jal, pour se soumettre à Allah, pour suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle doit d'abord avoir dans le cœur cette base qu'elle ne vit que pour l'adoration d'Allah, qu'elle n'a été créée que pour l'adoration d'Allah. La personne qui a cette conviction ancrée dans le cœur va accepter facilement tout ce qui vient d'Allah, Azza wa Jal. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu donnes un conseil à telle et telle personne, dans le but de les corriger, de les sortir de l'égarement, que ce soit les péchés majeurs, mineurs, les innovations, avant ça même, le polythéisme, le shirk, le kufr, la mécréance, ils ont du mal à répondre à cet appel, parce que cette conviction n'est pas bien ancrée dans le cœur. Et si vraiment cette conviction que nous sommes créés pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala était ancré dans nos cœurs, on répondrait à l'appel d'Allah azza wa jal et celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la plus grande simplicité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a distingués des animaux. Nous, Allah nous a donné la raison avec laquelle il nous demande de suivre ses ordres, de délaisser ses interdits. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset de sourate Al-Dhariyat: Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ce qui veut dire: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Certains savants ont dit: ma'na liya'budun ay liwahidun, c'est-à-dire que pour qu'il m'adore veut dire que pour qu'il m'unifie d'un culte sincère, qu'il ne voue le culte qu'à Allah seul, sans associé, qu'il montre, qu'il manifeste, qu'il mette en pratique ce qu'implique le monothéisme pur. Allah Azza wa Jal nous a donné existence pour que nos cœurs soient tournés vers lui seul, pour que nos membres soient voués à lui seul, pour que nos convictions soit celle que lui nous a demandé d'avoir, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah a besoin de nous? Est-ce qu'Allah a besoin de nos services, de nos actes d'adoration? La réponse est dans le verset qui suit. Allah Azza wa Jal dit: Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux pas d'eux de subsistance et je ne veux pas d'eux non plus qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Certes, Allah est le pourvoyeur par excellence, le détenteur de la force, l'inébranlable. Subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a, dans ce verset, fait un lien entre al-khalq wa al-ibada, la création et l'adoration. Pourquoi? Car toute personne qui croit en Allah comme créateur doit croire en Allah comme méritant l'adoration. Car le seul qui crée est le seul qui mérite l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets du Coran, nous cite ce qui fait référence au fait qu'il est le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, le pourvoyeur, le seul qui donne la vie, la mort, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Toutes ces choses que l'on appelle ou que l'on résume sous le terme Tawhid al-Rububiyya, le monothéisme, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. La seigneurie, c'est le mot que l'on utilise pour désigner tous les actes propres à Allah, ce que seul Allah Azza wa Jalla est capable de faire. Beaucoup sont ceux qui approuvent ce premier point du monothéisme et qui reconnaissent qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul à octroyer la subsistance, le seul à guider, à égarer. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jalla utilise cet argument qui est reconnu par la plupart des gens pour ensuite les appeler à la deuxième chose que beaucoup de gens ne reconnaissent pas, le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Ici, Allah nous dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » C'est-à-dire, si je suis le seul à les avoir créés, si c'est ce en quoi vous croyez, alors sachez que je suis le seul méritant l'adoration. On le retrouve dans Surat Al-Baqara, le verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. » Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, celui qui a fait pour vous de la terre un lit, was-sama'a bina'a, et du ciel une construction élevée, wa anzala minas-sama'i ma'a, il a fait descendre du ciel une eau, fa akhraja bihi minath-thamarati rizqan lakum, avec laquelle il a fait sortir divers fruits en tant que subsistance pour vous. Fala taj'alu lillahi andada, n'assignez donc pas à Allah d'ego, wa antum ta'lamun, alors que vous savez. Et c'est d'ailleurs le premier ordre que l'on retrouve dans le Coran, l'ordre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, car c'est la base de notre vie et le but de notre existence. Donc, il y a un lien entre la création qui est propre à Allah et l'adoration qu'on ne doit vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous a cité l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah quand il nous dit: Allah nous a créés, a subvenu à nos besoins et ne nous a pas laissés à l'abandon. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla ne nous a pas laissé faire ce que l'on veut faire. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous laissait s'en remettre à nos personnes, on serait égaré, on serait voué à la perte, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation: Wala taqilni ila nafsi tarfata ayn, et ne me laisse pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à la fin de ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit: et n'assignez donc pas à Allah d'ego. Ne lui donnez pas d'ego, c'est-à-dire dans l'adoration, le culte, n'invoquez qu'Allah sans ego, ne réclamez qu'Allah sans ego, ne sollicitez que Allah sans ego. Wa antum ta'lamun, alors que vous savez quoi?
C'est le seul créateur.
Naam, alors que vous savez qu'il est le seul créateur, puisque vous le reconnaissez, Reconnaissez également qu'il est le seul à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, cette adoration d'Allah pour laquelle nous sommes créés, nous ne pouvons la connaître qu'à travers la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car ces adorations qu'Allah, ou pour lesquelles Allah nous a créés, sont conditionnées par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque l'on veut adorer Allah, on doit d'abord vérifier si cet acte par lequel on cherche à se rapprocher d'Allah est conforme avec la guidée du prophète alayhi salatu wa sallam. Soit le prophète l'a ordonné, soit le prophète l'a fait, l'a mise en pratique, soit il l'a soit le prophète alayhi salatu wa sallam l'a mise en pratique, soit il l'a dit, ou bien il l'a approuvé sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi ici il nous donne cette introduction. Vous allez voir qu'après il va nous dans le deuxième point, il va nous parler de l'importance du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette adoration pour laquelle nous sommes créés. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs défié les kuffars de Quraysh qui ne croyaient pas ou qui refusaient de reconnaître que le seul qui a le droit au culte était Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla leur a dit « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » ce qui veut dire, et ce verset se trouve dans la sourate At-Tur, c'est la sourate 52 du Coran, « Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs ?» Cheikh Suleyman, hafidhahullah, wa waffaqa, a commenté ce verset et a dit Imma anna khuliqna min ghayri shay, wa imma anna nahnu al-khaliqun, wal amrani batilan, aqla, falam yabqa illa anna Allah azza wa jalla huwa alladhi khalaqana subhanahu wa ta'ala. Il dit, ce partage que l'on trouve dans le Coran, est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Ou bien, sont-ils les créateurs? Ce sont deux choses qui sont impossibles, que la raison n'accepte pas. Il reste donc une seule chose, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Est-ce qu'ils sont venus à l'existence à partir de rien, sans la création du créateur? Non. Il reste une deuxième chose. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes les créateurs? Non. Quelle est la troisième chose? Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Donc c'est ainsi qu'Allah les appelle à l'islam. Et ce verset a été la cause de la conversion à l'islam d'un compagnon qui s'appelle Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, qui vient un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une requête qu'il avait en étant mécréant. Il voit le prophète alayhi salatu wa sallam en train de réciter dans la prière cette sourate. Lorsqu'il écoute les versets, il les médite. Quand le prophète arrive à ce verset, Jubair radiyallahu anhu dit que ce fut le moment où la foi s'est installée dans son cœur. Et après ça, il a rejoint le nombre des compagnons, des sahabas, radiyallahu anhum. Le sheikh a dit, khalaqana wa razaqana. Allah nous a créés et nous a donné la subsistance, subhanahu wa ta'ala. Et le lien qu'il y a entre la création et la subsistance, on le retrouve également dans plusieurs versets du Coran. Par exemple, le verset où Allah nous informe pourquoi nous sommes créés. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le verset qui suit. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. Certes, Allah est le pourvoyeur par excellence. Le vrai pourvoyeur. Subhanahu wa ta'ala. Tout cela dans le but de nous appeler à son adoration, subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous a pas laissés à l'abandon, sans ordre, sans devoir, sans interdit. Vivre comme des bestiaux, comme des insouciants, des gens qui n'ont pas de but. Ces gens-là que vous voyez tout le temps malheureux, plein de soucis, plein de problèmes, parce qu'ils ont refusé de suivre le but pour lequel ils ont été créés, ce but qui ordonne leur vie et qui les conduit à la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Dans ce verset, dans les contextes des versets suivants, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous parle de ce qui adviendra des gens de l'enfer lorsqu'ils seront dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens qui sur terre pensaient qu'ils n'étaient pas créés pour un but ou refusaient d'admettre le but pour lequel ils étaient créés. Lorsqu'Allah les châtiera, il leur dira « Pensiez-vous que nous vous avions créés inutilement, c'est-à-dire sans but, et que vous ne reviendriez pas vers nous ?» فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الكريم العظيم الكريم. Allah عز وجل dit: élevé soit Allah, le roi, la vérité. Nulle divinité ne mérite l'adoration, toute vérité à part lui. C'est lui le seigneur du trône honoré ou honorable. Subhanahu wa ta'ala. Également dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُطْرَكَ سُودًا. L'homme pense-t-il qu'il sera laissé sans but, sans devoir? Regardez maintenant comment Allah Azza wa Jal va appeler ce même homme qui pense qu'il vit inutilement, qu'il n'a pas de but, à raisonner. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit, l'homme pense-t-il qu'on va le laisser sans but à observer, sans devoir? Ici, Allah ne cherche pas de réponse, bien sûr, quand il pose cette question. Mais cette manière de parler a pour but de blâmer, de réprimander. Comme quelqu'un qui voudrait éduquer une personne qui commet une erreur, et qui lui dirait, ne vas-tu pas arrêter? Il n'attend pas de cette personne une réponse, mais il veut, avec cette question, corriger cette personne, lui donner l'ordre d'arrêter. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'homme pense-t-il qu'on va le laisser sans but à observer? Puis, il fait en sorte que l'homme se remémore l'état dans lequel il était lorsqu'il n'était pas encore un homme et qu'il était dans le ventre, dans l'utérus de la mère. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, puis une... Donne-moi le mushaf, on traduit. Puis une adhérence. Barakallahu fik. Puis une adhérence. Ensuite, il l'a créé et il lui a donné sa forme. Donc ici, Allah Azza wa Jal dit à cet homme, comment peux-tu croire que tu es créé sans but alors que tu sais très bien qu'auparavant tu n'étais qu'une goutte insignifiante? Comment est-ce que cette goutte va devenir plus tard un homme doué de raison, doué d'intelligence? Comment est-ce que ce même homme peut croire qu'il n'a pas de but à observer? Donc Allah Azza wa Jal appelle les gens à méditer à travers ces signes. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah a dit « Bal arsala ilayna rasoula » Allah ne nous a pas laissés à l'abandon. Il nous a envoyé un messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lui obéit entrera au paradis. Celui qui lui désobéit entrera en enfer. Puis il a cité comme preuve ce verset où Allah Azza wa Jal dit ce qui veut dire: certes, nous vous avons envoyé un messager, témoin de vos actes et paroles, de la même façon que nous envoyâmes un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager et nous l'anéantîmes par un dur châtiment. De quel messager est-ce qu'Allah parle dans ce verset? De Moussa alayhi salam. C'est bien. Pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal nous donne cette information que peut-être on a lu plusieurs fois? Pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal nous dit « On vous a envoyé un messager témoin de vos faits et gestes, tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. » Pharaon, je n'ai... Attends. Pharaon a désobéi au messager et nous l'anéantume par un dur châtiment. Exactement. Pour avertir les polythéistes de l'époque. C'est-à-dire, pour leur dire, attention, vous savez que j'ai envoyé un messager à Pharaon. Pharaon n'a pas voulu le suivre. Il fut châtié d'un châtiment douloureux. C'est la même chose qui vous attend si vous, vous conduisez comme Pharaon qui n'a pas suivi son messager. Aujourd'hui, je vous envoie un autre messager. Soit vous lui obéissez et vous réussirez, ou bien vous lui désobéissez et alors vous aurez le même sort qu'a eu Pharaon. Et vous savez que Pharaon a été châtié par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et le châtiment qu'il a eu dans ce bas monde n'est rien devant celui qu'il aura lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par Allah, est un immense don d'Allah pour nous les musulmans. Car c'est le sceau des messagers, c'est le dernier prophète, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu nous enseigner la sagesse, nous purifier, nous avertir, nous annoncer la bonne nouvelle, nous guider vers le droit chemin d'Allah. Sa sunna, c'est la guidée d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, « Inna awhayna ilayka, kama awhayna ila Nuhin, wa nabiyyin min ba'dih, wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbat, وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui rappelant ce bienfait, nous t'avons certes fait une révélation comme nous l'avons fait à Nuh et aux prophètes après eux, et comme nous avons fait une révélation à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq et Yaqub, les tribus, Isa, Ayoub, Younous, Haroun, Suleyman, et nous avons donné à Daoud les psaumes, le Zabour, la révélation que Daoud a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Et c'est un grand bienfait d'Allah sur nous, subhanahu wa ta'ala. Allah a envoyé les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs afin qu'il ne reste plus d'arguments pour les gens. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset Rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah 'azizan hakima. Des messagers que nous avons envoyés comme avertisseurs, comme annonciateurs et avertisseurs, afin que les gens n'aient plus d'arguments devant Allah après l'envoi des messagers. Et certes Allah est tout-puissant et sage. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le but de l'envoi de ces messagers, c'est de guider les gens et aussi qu'il n'ait plus d'arguments. Donc après l'envoi des messagers, personne ne pourra dire qu'il est ignorant ou qu'il ne savait pas. Maintenant, comment est-ce qu'on doit se conduire devant ce messager qui nous a été envoyé? C'est ce qu'il nous dit en nous disant « فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ » Celui qui lui obéit entrera en enfer. Celui qui lui désobéit entrera au paradis, pardon. Celui qui lui désobéit entrera en enfer. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la voie du paradis. Celui qui la suit entrera au paradis. Celui qui dévie de cette voie, que ce soit en sortant de l'islam, en sortant du tawhid, du monothéisme, en donnant l'adoration à un autre qu'Allah azza wa jal, entre en enfer et n'en sortira jamais. Et celui qui sort de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en restant dans la sphère de l'islam, mais en quittant les enseignements du prophète, en rejoignant les innovations et les innovateurs, il risque également l'enfer, même s'il est musulman. Si ce n'est que, s'il meurt musulman, il n'aura pas l'enfer éternel. Quoi qu'il en soit, celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui refuse de le suivre et de se conformer à sa voie, il risque l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé ce prophète qui n'a pas laissé un seul bien sans nous l'enseigner, un seul mal sans nous mettre en garde contre ce dernier. Alayhi salatu wa salam, il nous a éduqués, il nous a guidés, il nous a transmis le savoir, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous devons lui obéir, nous devons le suivre, nous devons suivre ses ordres, ses enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » Et obéissez à Allah et aux messagers, ainsi il vous sera fait miséricorde. L'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la voie vers la miséricorde d'Allah. Celui qui veut qu'Allah lui fasse miséricorde doit obéir à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui est en dessous du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et qui a l'autorité, doit être obéie dans cette autorité qu'elle a, tant qu'elle ne donne pas un ordre qui est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette personne soit les parents, le gouverneur, ou toute autre personne qui détient un commandement sur une autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui détiennent l'ordre ou le commandement parmi vous. Voyez qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala a cité deux fois l'obéissance, l'ordre. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Ensuite, il n'a pas dit « et obéissez à ceux qui détiennent l'ordre ». Mais il dit « ainsi qu'à ceux qui détiennent l'ordre ». Pourquoi ? Pour nous dire que cette troisième obéissance citée dans le verset dépend de l'obéissance d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, par exemple, tu te dois d'obéir à tes parents. Tes parents détiennent l'ordre. Mais ici, bien sûr, dans ce verset, en premier lieu, ceux qui sont visés sont les savants et les gouverneurs musulmans, qui donnent des ordres qui ne contredisent pas les ordres d'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là à qui nous devons l'obéissance, nous leur devons l'obéissance dans la limite de l'obéissance d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, s'ils nous donnent un ordre qui contredit ce qu'Allah nous demande de faire, on n'a pas le droit d'obéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ » فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةَ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَ. Il incombe à l'individu musulman l'écoute et l'obéissance tant qu'on ne lui ordonne pas une désobéissance. Si on lui ordonne une désobéissance, alors nulle écoute et nulle obéissance. Ça, c'est la règle fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance d'Allah en vérité et une preuve que l'on aime Allah. À un point où, lorsque les gens ont prétendu qu'ils aimaient Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah a révélé ce verset qui a été surnommé par les gens de science Ayatul Mihna, le verset du test. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sourate Ali Imran dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Ainsi Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Donc, voyez ici que il n'est pas question de prétention, mais plutôt d'acte. Toute personne qui dit j'aime Allah, mais qui ne suit pas après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a un manque dans cette prétention qu'elle a ou dans cette foi qu'elle a en Allah ou cet amour qu'elle a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas où elle est mue, cette personne est croyante. Dans le cas où elle ne suit pas du tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam car elle n'est pas croyante, alors ici elle n'a aucun amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut donc obéir à Allah
qu'en obéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a dit: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, il y demeurera et ils y demeureront éternellement, et ceci est l'immense victoire. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari: Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tous les gens de ma communauté entreront au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Qila wa man ya'ba ya Rasulallah. Les compagnons ont dit: mais qui peut donc refuser l'entrée au paradis au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit entrera au feu. Et dans une autre version authentique: wa man 'asani faqad aba. Et celui qui me désobéit a refusé. Il a donc refusé d'entrer au paradis. Donc, ici le Cheikh rahimahullah a voulu nous montrer l'importance de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a cité comme preuve ce verset qui fait référence à l'envoi de Moussa alayhi salam vers le transgresseur, un des pires ennemis d'Allah, Fir'aun, dans le but de l'appeler à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez tous, approximativement, au minimum, l'histoire de Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, en vérité, cherche, ou à travers ce verset, à mettre en garde la communauté musulmane, afin qu'elle ne ressemble pas au peuple de l'époque de Moussa, les suiveurs, alaykoum salam, de Pharaon, qui ont refusé de suivre les enseignements de Moussa alayhi salam, ce qui a causé la colère d'Allah contre eux, subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a dit: فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Et nous l'anéantîmes par un dur châtiment. Et cette traduction n'est qu'approximative, et le sens est bien plus fort encore. Allah Azza wa Jal dit ici qu'il les a repris. Il les a repris d'un châtiment terrible, redoutable, extrêmement fort. Subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, nous avons terminé le premier de ces trois points qui composent la deuxième introduction. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Le deuxième, c'est-à-dire le deuxième point que nous devons connaître. Allah n'admet aucunement qu'on lui attribue un quelconque associé dans les actes d'adoration, même s'il s'agit d'un ange proche d'Allah ou d'un prophète messager. La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est donc la traduction: les mosquées sont réservées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce deuxième point est également de la plus grande importance. Après que le Cheikh rahimahullah nous ait montré que nous ne sommes pas créés inutilement sans but à observer, nous avons un but. Quel est ce but? On doit lui vouer le culte, l'adoration. Si on a bien compris cela, on doit comprendre maintenant que cette adoration, on n'a pas le droit de la partager entre Allah Azza wa Jal et un autre. Car comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma dans l'explication du verset: et je n'ai créé les djinns, les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient, qu'ils m'adorent d'un culte sincère, qu'ils m'adorent seul. Donc si c'est pour ça qu'on a été créé, pour adorer Allah, on doit savoir qu'Allah Azza wa Jal n'admet en aucun cas qu'on lui donne ou qu'on lui attribue un associé. Un associé dans quelle chose? Dans l'adoration, dans l'invocation, en demandant à un autre qu'Allah ce qu'on ne doit demander qu'à Allah, Azza wa Jal. Ceux qui demandent à un autre qu'Allah la guérison, chose que seul Allah est capable de donner, la réussite, la subsistance et toutes ces choses-là, la bénédiction, la baraka et toutes ces choses-là. Celui qui sait qu'il a été créé pour adorer Allah doit savoir que s'il adore Allah Azza wa Jal et qu'il adore en même temps quelqu'un d'autre, cette première adoration est nulle. Elle devient caduque. Allah subhanahu wa ta'ala la rejette. Quand bien même cet individu ou cette idole adorée serait un prophète rapproché d'Allah, un ange rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien les autres prophètes, l'ange Jibril alayhi salam ou les autres anges. Que dire alors de ceux qui sont bien en dessous du prophète alayhi salatu wa salam ou des anges et qui sont bien moins aimés d'Allah que le prophète alayhi salatu wa salam ou les anges. Allah azza wa jalla n'agrée pas, il n'accepte pas qu'on lui donne un associé dans quelconque adoration. Et c'est une chose de la plus grande importance. Il nous a envoyé un messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ce messager est venu nous enseigner comment parfaire le but pour lequel nous sommes créés. Allah n'accepte pas de nous qu'on voue le culte à un autre qu'Allah. Et le verset qu'il a cité ici, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et je vais laisser le mot en arabe et l'expliquer, inshallah. Et les masajid, ce qu'on appelle al-masajid, reviennent de droit à Allah, sont exclusivement à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Le mot masajid, dans la langue arabe, est le pluriel du mot masjid. Le pluriel du mot masjid et qui vient du mot sujoud. Qu'est-ce que veut dire sujoud? La prosternation. Les savants du tafsir ont plusieurs paroles quant à la définition, quant au sens du mot ici, masajid, qui est le pluriel de masjid. Les deux paroles les plus connues sont les suivantes. Premièrement, ils disent que le terme masajid, qui a été traduit ici par mosquée, sont les lieux où on prie Allah Azza wa Jal, ce sont donc les mosquées. D'accord? Deuxièmement, ils disent que ce sont les parties de nos corps, de notre corps qui se prosternent au sol. Quand on se prosterne au sol, il y a combien de parties de notre corps qui touchent le sol? 7. Eh bien, ils disent que ces membres du corps qui touchent le sol, c'est ce qui est voulu par le terme masajid ici. Donc la traduction serait les membres qui se prosternent pour Allah sont réservés à Allah, c'est-à-dire on ne se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que le but du verset est clair, c'est qu'on a le droit de se prosterner que pour Allah azza wa jal. On a le droit d'invoquer qu'Allah et d'invoquer personne d'autre qu'Allah. Ensuite Allah azza wa jal a dit fala tad'u ma'a Allahi ahada, n'invoquez donc avec Allah personne. La forme de la phrase ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une interdiction. Il nous interdit d'invoquer quelqu'un avec Allah. Ce quelqu'un est à la forme indéfinie, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas précisé qui est-ce qu'on n'a pas le droit d'adorer avec lui. Il n'est pas défini ici. Dans les règles du tafsir du Coran, lorsqu'il y a une interdiction, lorsqu'il y a une forme indéfinie dans un contexte d'interdiction, la chose qui est interdite est globale. Je vais vous faciliter. Ici, Allah Azza wa Jal nous cite une chose indéfinie. Il nous dit personne. Ici, ce mot est indéfini. Il peut vouloir un homme, un ange, une femme, une tombe, une statue et toute autre chose. Ce terme indéfini est cité dans un contexte d'interdiction. N'invoquez donc, c'est-à-dire n'invoquez pas avec Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. C'est-à-dire, n'invoquez personne d'autre qu'Allah. Pas un ange, pas un prophète, irhamukallah, pas une créature, personne. Vous avez compris? L'interdiction, elle est globale. On a le droit d'adorer personne avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas, il n'agrée pas, il ne tolère pas l'association. Allah Azza wa Jalla a dit: "In takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." En sourate Az-Zumar, les groupes, Allah Azza wa Jalla dit ce qui veut dire: si vous m'écroyez, alors certes Allah est parfaitement riche, il se passe totalement, complètement de vous. Et il n'agrée pas, il n'admet pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous vous montrez reconnaissant, il en sera satisfait pour vous. Ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, si vous décidez de m'écroire, si vous ne voulez pas vous soumettre à mes ordres, si vous ne voulez pas vous conformer au monothéisme pur, à m'adorer seul et sans associé, sachez que je suis riche, je n'ai en aucun cas besoin de vous. C'est-à-dire que le mal reviendra sur vous en vérité. Et je ne tolère pas que mes serviteurs m'écroient. Et si vous vous montrez reconnaissant, Allah Azza wa Jalla est satisfait, en est satisfait pour vous. Et donc c'est le deuxième point que l'auteur a cité, rahimahullahu ta'ala, et les détails vont arriver rapidement, inshallah. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Le troisième, celui qui obéit au messager et adore Allah uniquement, n'a pas le droit d'être l'allié de celui qui renie Allah et son messager, même s'il s'agit de son plus proche parent. La preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la traduction. Tu ne trouveras jamais ceux qui croient en Allah et au jour dernier aimer ceux qui renient Allah et son messager, même s'il s'agit de leurs propres enfants, de leurs propres parents, de leurs enfants, de leurs frères ou de leurs proches. Cela, Allah a inscrit la foi dans leur cœur et les soutient d'un esprit émanant de lui. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Tels sont les partisans d'Allah. Les partisans d'Allah connaîtront vraiment la réussite. Souvenez-vous des deux points. Allez comme ça. Le premier point, nous sommes créés pour adorer Allah, Azza wa Jalla. Le deuxième point, nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est comme si qu'il nous dit: vous qui avez compris pourquoi vous êtes créés, pour adorer Allah, qui est-ce que vous devez suivre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui découle de cette croyance? Vous venez de voir qu'Allah n'agrée pas, ne tolère pas le shirk, le polythéisme. Vous venez de voir qu'Allah n'est pas satisfait de vous si vous adorez un autre que lui. Qu'en est-il maintenant des partisans du polythéisme? Qu'en est-il de ceux qui commettent l'association? Vous savez comment vous conduire devant l'association. Comment devez-vous être devant les associateurs? Ceux qui n'adorent pas Allah ou qui adorent un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit à Allah, au messager, et adore uniquement Allah, ici il cite les deux points qu'il a cités précédemment, n'a pas le droit d'être l'allié de celui qui renie Allah et son messager, même s'il s'agit de son plus proche parent. Et sachez que la question soulevée ici par l'auteur, rahimahullah, est un fondement essentiel des fondements du dogme islamique, de la croyance de l'islam. Il est appelé en arabe al-wala ou al-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu. Ce point en lui-même est une croyance, est un fondement de l'islam. Le croyant doit être l'allié de ceux qui sont les alliés d'Allah. Il doit se désavouer de ceux dont Allah Azza wa Jal s'est désavoué. Il doit aimer celui qu'Allah aime et ceux qu'Allah aime, tout comme il doit détester celui qu'Allah déteste et ceux qu'Allah Azza wa Jal déteste. Car c'est ce qui découle de la véritable foi. Celui qui aime Allah Azza wa Jal et qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque doit aimer ce que le prophète a aimé et doit détester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté. Ce point-là s'appelle l'alliance et le désaveu, al-wala ou al-bara. Et il fait partie des points à travers lesquels le croyant met en pratique ou concrétise ou réalise véritablement le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après nous avoir parlé de l'obligation d'adorer Allah, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de ceux qui adorent un autre qu'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas que le croyant prenne pour allié quelqu'un qui n'est pas un croyant, quelqu'un qui mécroit en Allah, quelqu'un qui adore un autre qu'Allah, qui renie Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment prendre en allié quelqu'un qui renie ton Créateur, celui qui t'a donné tous les bienfaits dont tu jouis et tu disposes, celui qui nous a donné la vie? Tu vois une personne qui vit dans ce bas monde, qui mange des bienfaits d'Allah, qui jouit de la santé qu'Allah lui a donnée, de la subsistance qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyée, de la vie qu'elle a. Elle nage dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite elle n'est pas reconnaissante envers Allah, elle adore un autre qu'Allah, elle mécroit en Allah. Penses-tu qu'Allah Azza wa Jal va aimer une telle personne? Impossible. Et donc celui qu'Allah n'aime pas, le croyant n'a pas le droit de l'aimer. Et certes Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, innahu la yuhibbul kafirin, certes il n'aime pas les mécréants. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pourquoi est-ce que l'auteur, rahimahullah, a cité cette première phrase? Celui qui obéit au messager d'Allah et adore Allah uniquement, ensuite il donne ce que on a comme devoir en tant que quelqu'un qui croit en Allah et qui suit le prophète, alayhi salatu wassalam. Pour deux raisons. Il s'adresse à nous de cette manière pour deux raisons. La première, c'est pour encourager à la mise en pratique de ce qui va suivre. C'est comme si qu'il nous dit, ô toi le croyant, toi qui aimes Allah Azza wa Jal, toi qui aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici ce qui vient d'Allah et de son prophète. Il t'appelle par la foi que tu as dans ton cœur pour t'encourager à mettre en pratique ce qu'il va te dire de faire, qui est ce qui est cité par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième raison pour laquelle il a cette façon de parler, pour montrer que ce qu'il va citer ici fait partie des implications du tawhid, c'est-à-dire de ce qu'implique le tawhid, le monothéisme, ce qu'impose le monothéisme et ce qu'il implique. Qu'est-ce que ce monothéisme implique? Qu'est-ce que cette croyance en l'unicité d'Allah, qu'est-ce que cette foi en Allah seul et sans associé implique et te demande de faire? La réponse n'a pas le droit d'être l'allié de celui qui renie Allah et son messager, même s'il s'agit de son plus proche parent. Ce qui a été appelé ici al-mu'alat. Al-mu'alat, c'est ce qu'on appelle en français l'alliance. Et ce terme à la base, al-mu'alat, vient de... Mais avant d'abord d'entrer dans ça, plutôt, de manière globale, avant d'entrer en détail, le croyant n'a pas le droit d'aimer un kafir billah, un mushrik, un mécréant, un associateur, qui renie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous allez voir que l'amour que le croyant éprouve à tort pour un kafir, et c'est un péché, à plusieurs catégories et plusieurs degrés. Ces catégories ne sont pas toutes de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam comme on pourrait le penser. Et beaucoup sont ceux qui n'ont pas assimilé correctement ces questions de ce domaine de l'alliance et du désaveu, ce qui a causé leur égarement. Ils ont rejoint des sectes égarées au nom de l'wala wal-bara, de l'alliance et du désaveu. Et ce qui nous est demandé ici, c'est le juste milieu, qui n'est autre que l'attachement au texte du Coran et de la Sunna. Ceci étant dit, le croyant n'a pas le droit d'aimer le kafir billah, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas le droit de l'aimer pour sa religion, lui et sa religion. Il n'a pas le droit de l'aimer à cause d'un péché qu'il fait ou à cause de ce bas monde et d'une chose qu'il a dans ce bas monde. Cela lui est formellement interdit et ça va venir, inshallah ta'ala, en détail. Et aujourd'hui, on voit des musulmans aimer des kuffars, des polythéistes, des associateurs, des mécréants. On les voit les aimer à un point, ils font tout pour leur ressembler. Ils les aiment pour un comportement qu'ils ont. Si on demande à l'un d'entre eux, pourquoi est-ce que tu aimes un tel, il te dit, parce qu'il a un bon comportement, parce qu'il est gentil. Ou bien, parce que c'est mon associé dans le travail. Ou bien, je l'aime parce qu'il m'a rendu un service. Je l'aime parce que c'est un bon joueur de foot. Alaykoum salam. Je l'aime parce qu'il est célèbre dans telle et telle chose. Tous ces arguments sont faux et sont injustes. On n'a pas le droit d'aimer un kafir billah, ni pour son dîn, sa religion, ni pour quoi que ce soit de sa dunya. Et ceci est un péché. À un point où tu vois le jeune, alaykoum salam, porter le vêtement du kafir, de l'équipe du kafir, peut-être même qu'il y a une croix, wal'iyadhu billah, comme salam, sur son vêtement. Ensuite, il vient dans les lieux de culte et il se prosterne à Allah Azza wa Jal avec ce vêtement. Dans le dos, il y a écrit le nom d'un kafir, de quelqu'un qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne a un manque dans le wala wal-bara, dans l'alliance et le désaveu. Car l'alliance et le désaveu a des implications, des choses qui vont découler, que l'on doit mettre en pratique. Comment est-ce que tu peux porter le vêtement sur lequel il est inscrit, écrit le nom d'une personne qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah est en colère contre ceux qui mécroient en lui. Et toi, le croyant, qui est censé être l'allié de ceux dont Allah est l'allié, l'ennemi de ceux dont Allah est l'ennemi, tu fais le contraire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appris ces principes de l'islam. Et on vit une époque où cette base de la croyance, al-wala wal-bara, a presque disparu du cœur des gens. Soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de prêcheurs véridiques qui enseignent aux gens la vraie croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il y a des gens qui connaissent le haq mais qui ont peur de dire la vérité, alaykoum salam, ou bien il y a des prêcheurs de l'égarement, des gens qui induisent les autres en erreur, qui les trompent, qui trahissent la umma et qui les trahissent au lieu de les guider vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Ils leur disent, il n'y a pas de mal à aimer telle et telle personne. Pourquoi ? Parce que cette personne dont ils parlent va leur ramener un bien de ce bas monde. Et comme eux vivent pour ce bas monde, alors ils ferment les yeux sur un munkar, sur un mal qu'Allah au-dessus des sept cieux n'aime pas et déteste, subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend la parole dans la religion d'Allah doit dire ce qu'Allah veut qu'il dise. En dépit de l'aversion de quiconque parmi les gens, il recherche à travers ses paroles la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est content, tant mieux pour lui. Celui qui n'est pas content, tant pis pour lui. Tant qu'il a dit ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu qu'aimer ces gens-là est un acte interdit. Ceux qui ont renié Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont renié Allah, ou le fait de renier Allah subhanahu wa ta'ala, a deux sens, comme l'a dit le Cheikh Sulaiman, hafidhahullahu ta'ala, car comme je vous l'ai dit, c'est sur son commentaire que je m'appuie. Il dit المعنى الأول أنهم أخذوا حدا وجانبا وجعلوا المسلمين في جانب آخر فجعلوا بينهم وبين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حاجزا فاصلا فالمحادة من الحد والحد هو الحاجز بين الشيئين هذا المعنى الأول. Le premier sens de ce mot, c'est-à-dire le fait de renier Allah, mais le mot en arabe c'est al-muhadda. C'est le mot que l'on retrouve dans le verset. Premièrement, cela consiste à mettre à l'écart les musulmans. C'est-à-dire qu'ils se mettent d'un côté et laissent de l'autre côté les croyants. Ils ont donc mis alaykoum salam, entre eux et Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam un obstacle. Un obstacle, ils se sont éloignés d'Allah. Deuxièmement, le deuxième sens, wal ma'na thani, anna al-murada bi muhaddati al-kuffari lillahi wa li rasulih sallallahu alayhi wa sallam annahum ja'alu baynahum wa bayna awliya'illah al-hadid wa an-nar faqatalu al-muslimin wa a'addu al-'uddata liqitali al-muslimin wa 'amilu bidhalik. وهم لن يرضوا عن المسلمين حتى يردوهم عن دينهم وهذا هو الأصل في الكفار ولذا وجب على المسلم ألا يحب الكفار ولو كان الكافر أقرب قريب ولو كان أبا أو أخا أو نحو ذلك وإن كنا سنتكلم إن شاء الله إلى آخر ما قال وفقه الله. Le deuxième sens de ce verset c'est que le fait de renier Allah Azza wa Jal pour ces gens-là consiste à déclarer la guerre à Allah Azza wa Jal, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants, à les combattre. Donc ici, dans, dans le deuxième sens de ce terme, on voit que renier Allah et son prophète alayhi wa sallam se traduit par le fait de combattre les croyants. Pour résumer, l'auteur nous dit que le croyant n'a pas le droit d'être l'allié de celui qui fait ces deux choses-là, qui se met à l'écart des croyants, qui met entre lui et Allah une barrière, il ne se rapproche pas d'Allah Azza wa Jal, il n'est pas le frère des croyants. Deuxièmement, qui combat les croyants, et qui leur fait la guerre à cause de la foi qu'ils ont en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a donc pas le droit de prendre en allié une telle personne, combien même cette personne serait une personne parmi les plus proches, que ce soit le père, le frère et autres encore. Et vous allez voir, Inch'Allah, quand les détails vont arriver, que l'amour que l'on a pour le kafir, pour le mécréant ou l'associateur, varie dans son jugement. Parfois, il est un péché majeur, d'autres fois, il est un acte de mécréance, et d'autres fois c'est une chose qui est permise. Alaykoum salam. D'autres fois c'est une chose qui est permise, comme on va le voir, Inch'Allahu ta'ala. Donc ce principe de l'alliance et du désaveu a une place très élevée dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où les savants de l'islam ont dit que ce principe fait partie des fondements de la foi. Et c'est pourquoi ils l'ont cité dans des chapitres, parfois, dans leurs livres qui traitent du dogme de l'islam, de la croyance islamique. Ce sujet a donc la plus grande importance, et Inch'Allahu ta'ala, vous allez en voir les détails dans le prochain cours, bi'idhnillah. Mais sachez que, on a dit et on redit que beaucoup de gens ont glissé dans ce terrain et se sont éloignés de la vérité à cause de la mauvaise compréhension. Souvenez-vous que le cheikh Suleyman, wafaqahullah, a dit que les bases de l'égarement sont de trois. Qui est-ce qui peut me les rappeler? Qui se souvient des bases de l'égarement? Abdelrahman. Premièrement, une mauvaise science. Deuxièmement, Soufiane. Une mauvaise compréhension de la science. Troisièmement, Abdul Karim.
Une mauvaise intention.
La personne dévie de la sunna à cause d'une de ces trois choses. Une mauvaise science, et cela se divise en deux. Soit la personne n'a pas de science, elle part dans la religion d'Allah Azzawajal, à ce moment-là, elle va s'égarer. Ou bien, elle a une science qui n'est pas utile dans la religion, elle va s'égarer. Deuxièmement, une mauvaise compréhension. Et on a dit que la mauvaise compréhension, c'est parce que la personne ne s'appuie pas sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Troisièmement, une mauvaise intention. La personne a la science, elle a bien compris cette science, mais pourtant, elle s'égare parce qu'elle a une mauvaise intention. Elle veut paraître devant les gens, elle veut être aimée et autres. Et vous allez voir que beaucoup de gens, dans le domaine de l'alliance et du désaveu, ont une mauvaise compréhension. Cette mauvaise compréhension les a égarés du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici, inshallah. Et on entrera dans les détails de cette question la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khayran. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.